Merci Anne-Lorraine et à Frédéric pour cette invitation. Et merci là pour le précédent exposé. Moi, je pense que ça serait bien d'un jour de faire un vrai débat autour d'Aron et Mounier. Je pense qu'Aron est quand même beaucoup plus un solitaire. C'était moins un homme de collectif. La revue, il l'a fait à la fin. Tu aurais pu signaler qu'il a aussi participé à la revue critique. Moi, je vais parler très vite d'une personne majeure, c'est qui a déjà été beaucoup évoquée, donc je serai d'autant plus rapide, mais qui est méconnue, sauf si je me trompe. Il y a ici des chercheurs, je ne le suis pas. Je ne connais toujours pas de travaux solides sur Paul Wilandsberg. Il y en a plus en Italie, en Allemagne qu'ici. Ici, il n'y a quasiment rien. Or, il y a un travail fait en Suisse, donc je ne vais pas citer tous les textes. Là-dedans, vous avez la bibliographie et un article. C'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de citer tous les textes. Il a travaillé dans à peu près 50 revues. Donc ceci pour dire que c'était quelqu'un qui était un traceur. C'était quelqu'un qui... D'ailleurs, c'est un peu ça que je voudrais évoquer en partant de la formule de Ricoeur de 51. Il fait un compte-rendu du livre « L'essai sur l'expérience de la mort ». Il tient à l'histoire intérieure et à la pensée du mouvement esprit presque autant qu'Emmanuel Mounier. Presque autant qu'Emmanuel Mounier. Donc, attention, on parle du mouvement esprit. On ne parle pas de la revue esprit ou de la doctrine personnaliste. Très important. Parce que c'est ça que je voudrais faire, c'est juste évoquer le mouvement avec le personnage de Landsberg. Un mouvement qui va travailler toutes les années 30. Et Mounier, à la mort de Landsberg, dont je le dis déjà, Landsberg est mort en 44 au camp d'Orianenburg, à côté d'ailleurs du frère de Jean Cayrol. Jean Cayrol qui va être un des grands littéraires d'esprit après la Deuxième Guerre mondiale. Mounier dit « Il fut, il reste à jamais, parce qu'il nous a donné une des pierres d'angle d'esprit, nul plus que lui n'a contribué aux environs de 1935, on n'est pas loin de 32, à nous sauver des tentations utopiques. » Là, on n'aura pas le temps, mais tous les débats tout de suite sur la révolution, etc., sont là. Hein. Donc je vais évoquer cette personne tout à fait étrange, en même temps tourmentée, dramatique, hantée par la question du mal, de la maladie, du suicide. Il écrit un essai sur le suicide. Je vais essayer d'évoquer très vite, on a quand même 10 minutes là, en dépit du Ciné-Club. Bon, et Esprit, quand même, la revue qui a porté Bazin, qui est le fondateur des Quais du Cinéma, donc ils pourront attendre quelques minutes. Bon. Ce qui est très intéressant avec Landsberg, c'est que ça nous permet de mettre l'accent dans le cas du mouvement esprit qui démarre en 32. Mais c'est un mouvement. Ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites là, cette soirée. Mettre l'accent moins sur le fondateur ou la fondation et moins sur la doctrine des naissantes que sur la dimension internationale du mouvement, qui n'a pas trop été évoquée, tout à fait normal. Esprit s'intitule d'entrée de jeu, je crois qu'Anne-Lorraine l'a dit, revue internationale. D'entrée de jeu. Et donc, on va avoir affaire à quelqu'un qui est un double exilé, puisqu'il va quitter l'Allemagne pour aller en Espagne et revenir en France. Et finir, puisqu'il va être arrêté, et finir au camp d'Orianenburg. Donc, on a là un mouvement, on a une mine en mouvement. C'est ça qui est tout à fait fascinant chez Landsberg. Par ailleurs, on a chez Landsberg quelqu'un qui a une conception de la communauté et de la personne, alors qu'il joue un rôle essentiel lié, le texte a été lu, donc je ne vais pas trop en rajouter, sur la question de l'engagement. C'est lui qui fait bouger la revue, lui faire sortir peut-être des tentations que Aron aurait certainement critiquées. Et il le fait parce que effectivement, c'est quelqu'un qui vit le départ de l'Allemagne, qui part en Espagne et qui prend dans la figure la guerre civile. Et la guerre civile est pour lui encore plus... Alors ça, c'est très important, parce que c'est des choses aussi oubliées dans l'histoire d'esprit comme dans l'histoire intellectuelle française. C'est l'importance de la guerre civile espagnole, puisqu'une revue marquée quand même par le christianisme va être confrontée à la question catholique et à la question de l'Église catholique. Et une revue marquée aussi par le marxisme, par le communisme, etc., va être confrontée au problème du stalinisme durant la guerre. Et c'est pas pour rien que la revue Esprit va beaucoup publier sur les anarchistes. Puisque ce n'est pas la peine de rappeler Victor Serge, Simone Veil et Malraux pour savoir que justement la question elle va se poser là, à l'intérieur du débat politique comme du débat religieux. Donc la guerre d'Espagne, elle joue un rôle tout à fait central. Et dernier point, on va voir très vite, si j'ai le temps, c'est tous les niveaux d'intervention du mouvement esprit auxquels collabore Paul-Louis Landsberg, qui effectivement tout en n'étant pas en France, va participer au mouvement Esprit. C'est ça qui est tout à fait fascinant. On est dans un contexte complètement européen, celui de la crise. Alors, quelques mots très rapides, biographiques, et là-dessus, on a quasiment très peu de... Et là, c'est des chercheurs. Moi, je pense qu'il faudrait... J'ai entendu des choses tout à fait passionnantes tout à l'heure. Il faut que tu pousses tes étudiants, je parle à Perrine, hein, à travailler sur Landsberg, même si ce n'est pas un penseur très aronien, on va voir, parce que très tourmenté, très trouble. Hein, il est quelques éléments pour bien comprendre. On démarre en 32. Il décide en 32 de quitter l'Allemagne. Il est fils d'un universitaire de Bonn. Il est de mère juive, mais il insiste sur le fait qu'il a une éducation protestante. On lui propose un poste pour 33, mais il ne le prendra pas. Il décide de partir. En Allemagne, il est marqué. On a évoqué l'augustinisme tout à l'heure. Vous avez raison. Comme par hasard, comme beaucoup d'autres, et comme Anna Arendt, je le rappelle, il fait une thèse sur Saint-Augustin. Il fait aussi une thèse sur l'Académie platonicienne. Comme quoi, la manière de travailler en commun l'intéresse. C'est ça sa question, tout de suite, la question du collectif. Et il travaille parallèlement à un projet d'anthropologie philosophique et où il croise les gens qui vont être liés à tous les travaux de sciences sociales qui vont aller vers l'équivalent de l'école de Francfort pour aller très très vite. Il a le contact avec Horkheimer, avec Zombart. C'est très intéressant parce qu'il est déjà sur plusieurs registres, on le voit très bien. Et deux figures le marquent, et je suis très rapide, c'est Max Scheler qui a écrit sur la mort et qu'il va discuter dans ce petit essai qui est publié au Seuil, essai sur l'expérience de la mort, qui est tout à fait passionnant et qui aurait pu donner à réfléchir un petit peu aux gens qui travaillent sur la fin de vie aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'impression, toi qui as été un peu dans le coup, qu'il a été tellement évoqué. Et l'autre personnage, c'est Romano Gardini, qu'il ramène, on l'a évoqué tout à l'heure, à tout ce qui est le côté écrivain, Dostoïevski, Kafka, Léopardi. Très intéressant, ce qu'on voit, il est sur plusieurs registres tout de suite. Alors, il part, on ne sait pas si... Il quitte l'Allemagne, donc, dès 1933. Bien non, je n'ai pas besoin d'insister pourquoi. Et il s'arrête un peu en France, on ne comprend pas très bien. Et il arrive en 1934 à l'Université autonome de Barcelone, où il obtient un poste. Et alors là, c'est très intéressant, parce qu'il est en contact avec le pôle madrilène. Et vous avez un pôle madrilène intellectuel extrêmement important, et tous ces gens vont être publiés dans la revue Esprit avant et après-guerre. C'est le pôle de la Revista de Occidente de José Ortega y Gasset. C'est des gens extrêmement importants qu'on oublie dans l'histoire. C'est le pôle du mouvement Esprit à l'échelle européenne, c'est le pôle espagnol. On a après autour de la revue Cruz et Raya, José Bergamin, qui lui-même fait référence à Unamuno. Donc là, on a des choses extrêmement importantes sur lesquelles je ne peux pas insister. En même temps, c'est très intéressant sur la manière dont fonctionnent les groupes, les séminaires, les rencontres. L'été, il n'y en aura que deux, il va avec son épouse dans un bled de la Costa Brava qui s'appelle Tossa del Mar, où sont regroupés, parce que c'est ça la vie intellectuelle de cette époque, des artistes, on est avant 36, hein, artistes espagnols, français, et très nombreux, peintres, littéraires, et pas que des philosophes. Là, on parle d'un moment philosophique, mais... À travers Landsberg, qui est un philosophe extrêmement puissant, on comprend que le mouvement Esprit va travailler énormément avec des littéraires, avec des peintres, avec tout ce qu'on va retrouver après-guerre, mais moi, je n'ai pas le temps de le dire. Et là, je pense qu'Aron n'est pas dans cette veine-là. Ce n'est pas du tout une critique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Aron. Qu'est-ce qu'il rencontre là ?
Il n'est pas au bord de la mer, non ?
Hein ? C'est André Masson qui passe ses vacances avec sa femme, et sa femme, c'est la belle-sœur de Georges Bataille. Et là, c'est très important, parce que qu'est-ce qui va se nouer là ? C'est des contacts qu'il va avoir durant toutes ces années, dès 34. Il va quitter l'Espagne après 36, c'est-à-dire juillet 36, le début de la guerre civile. Ils vont se retrouver là des gens très liés au collège de sociologie. Alors ça, on l'a peu évoqué. C'est quelque chose qui est très compliqué, le collège de sociologie. Mais ça, Frédéric pourra en parler mieux que moi. Le collège de sociologie, ça regroupe Roger Caillois, Bataille, Léris, Klossowski... Et Jean Val est extrêmement présent. Il y a énormément de contacts, Jean Val, Landsberg, mais j'ai pas trop le temps là de... C'est ça que je voulais mettre l'accent tout de suite sur le rapport avec ce monde qui n'est pas un monde très lié. C'est pas le monde d'Emmanuel Mounier, c'est pas le monde de Raymond Aron. C'est un monde tout à fait autre. C'est des gens qui travaillent sur le sacrifice, c'est des gens qui travaillent sur le mythe. Il a une discussion avec Jean Val sur le mythe très importante, par exemple. Et surtout, il se lie avec Klossowski. Klossowski qui va publier dans Esprit après la guerre. Klossowski, comme vous le savez, il regarde plus du côté de Sade, de Balthus et de gens comme ça. Et Et Klossowski, c'est celui qui tient la plume de Landsberg pour écrire le livre sur l'essai sur l'expérience de la mort. Donc là, vous avez quelqu'un dont Mounier et Ricoeur nous disent que c'est la personne la plus essentielle du mouvement esprit pour comprendre les questions d'engagement, qui a des liens avec des, je dirais, des thématiques qui ne sont pas du tout les thématiques évidentes du personnalisme. Et en même temps, il va être totalement présent durant la période espagnole. Il y a des va-et-vient. Je ne sais pas comment ça se passe. Le flou biographique est total. Il participe, et là, je viens au vif du sujet avec esprit. Il est d'abord, insiste la seule personne apparemment qui a écrit sérieusement sur Landsberg, le groupe philosophie d'esprit, qui dit qu'il a, à l'époque, le groupe philosophie d'esprit. Donc c'est même pas la revue, c'est un groupe de travail. C'est ça qui est très important. Le groupe philosophie d'esprit, c'est ce qui va le faire rentrer dans la revue, et le travail de la revue. Et on a, ben, comme par hasard, on a Jean Val, on a Berdiaev, on a Jean Lacroix, on a Gurvitch, on a Denis de Rougemont, on pourrait y continuer. Donc on a là le groupe philo d'esprit, il faudrait vraiment pousser à ce qu'il y ait un travail qui soit fait sur le mouvement esprit, qui ne soit pas toujours que sur le personnalisme, Mounier, avec tout le respect que j'ai, mais montrer tout ce qui s'est joué, dans le sens de Frédéric Vorm, je dirais, dans ce moment intellectuel qui croise les disciplines, les écritures et les nations européennes. Je fais que les évoquer. Il intervient après. Il fait les. Ça a été évoqué tout à l'heure et ton texte, hein, le texte qui a été lu. Il fait les grands rapports au congrès d'esprit, c'est-à-dire le moment fondamental. Chaque année, esprit, malheureusement, on a vite arrêté. Moi, quand je suis arrivé, à tort. Chaque année, il y a un congrès d'esprit le 14 juillet, qui n'est pas fait à Paris exprès, mais à Jouy-en-Josas, pour montrer que la revue n'est pas trop parisienne, ce qui n'était peut-être pas nécessairement vrai. Mais. Il fait les grands rapports au Congrès Esprit 1937, 1938, 1939. Hein. Donc on passe de 32, 33, on quitte l'Allemagne, on passe par l'Espagne, et en même temps on croise Esprit durant toute cette période. Il revient en France en 36 apparemment. Et il y a aussi un organe d'Esprit qui s'appelait le Journal Intérieur, que certains d'entre vous connaissent peut-être, que Paul Thibault a encore fait avec Guy Coq, et il est très présent dans le Journal Intérieur. Je ne peux pas continuer. Mais on pourrait citer des discussions avec Jean Val. Jean Val a un rôle très, très important. C'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui de faire le lien avec... Il a la décade de Pontigny, etc., etc. Mais j'insiste quand même beaucoup sur le fait du lien avec Klossowski. Avec Klossowski, il va se retrouver à la revue Acéphale et Georges Bataille. Et il va aussi se retrouver à la revue Dieu vivant, qui est une revue interconfessionnelle extrêmement importante, avec Marcel Mauré et des gens comme ça. Et c'est Klossowski qui va écrire, et je m'arrêterai là sur le côté biographique pour faire juste quelques remarques finales. C'est Klossowski qui va écrire un semblant de biographie de Landsberg. Vous voyez qu'on est très loin d'une vision assez positive d'un personnalisme communautaire. Alors justement, je vais être très rapide, je vais juste citer un ou deux textes. Ce qui est très intéressant, c'est que pour Mounier, c'est le penseur fondamental qu'il fait bouger, si vous avez bien compris, depuis le début, sur la question de l'engagement, de l'événement. Mais l'événement qui fait plus bouger, c'est plus l'Espagne que l'Allemagne, parce que je l'ai dit, il y a le problème interne déjà au communisme, il y a l'autre problème interne au catholicisme, et on a Bernanos, on a Simone Veil, on a Victor... Et ça, c'est très peu compris en France, et pas pour rien, parce qu'il y a le Front Populaire, et il y a le fait qu'on ne regarde pas... Bon. Donc il y a le moment espagnol, si j'ai deux minutes, je le cite quand même. Il y a quatre ans, lorsque je publiais mes réflexions sur Unamuno, nous n'étions que des enfants, alors que lui, il est déjà sorti d'Allemagne. Hein, quelles qu'aient été les difficultés que nous avions à traverser jusqu'alors, si l'on compare à ce que nous connaissons, ce que nous sommes aujourd'hui au moment de l'entrée dans la guerre civile. De même que ma vie changea, non seulement dans sa forme extérieure, mais dans son sens, quand le national-socialiste s'emparèrent de ma patrie, ainsi elle changeait une nouvelle fois quand se déchaînèrent contre le peuple espagnol les mêmes forces destructrices de la rébellion et de l'invasion qui lui fut étroitement associée dès le premier jour. Ces journées de juillet 36 que je passais à Santander sont dans ma vie la fin d'une époque de relative insouciance. En 36, il dit encore qu'il a vécu avant une période, c'est quelque chose d'incroyable, et en même temps un nouveau point de départ. Donc là, ce qui est intéressant chez Landsberg, très vite, c'est l'Espagne, la guerre civile comme point de départ, qui va être pas mal reprise dans l'esprit. Mais c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé et qui permettrait de beaucoup mieux de comprendre les tensions de la revue Esprit. Sur la question de l'engagement, je voulais citer, mais je crois que le texte a été... l'engagement est cité à l'événement, mais moi je pense que ce qu'il faut citer simplement, c'est la manière dont il aide à comprendre, là on retrouverait Aron justement quelque part, c'est la manière dont il faut inverser dans cette revue qui a des tendances pacifistes quelque part. C'est ça qui est compliqué. La question de la guerre et de la paix. Et là, on est au centre des vraies questions. On va retrouver la question de Polémos, de la guerre, etc. Reconnaître la guerre ne conduit pas à sombrer dans un réalisme de la guerre, dans un éloge abstrait de Polémos, mais à penser la paix en lien avec la guerre et non comme fin de la guerre. Lorsqu'on adopte la perspective qui est la nôtre sur les nécessités tragiques de la situation intellectuelle actuelle, on doit s'inspirer d'un savoir clair sur le contenu de l'idée de paix. Nous arrivons donc à la tâche de préciser d'une manière générale et purement philosophique la notion de paix qui correspond à notre philosophie personnaliste. La paix, en ce sens, n'est pas la négation de la guerre, mais une idée essentiellement positive, idée jamais parfaitement réalisable dans l'histoire, mais dont les guerres ne sont qu'en négation. Et alors, ça c'est fondamental, et ça a plein d'échos au moment de l'Ukraine, aujourd'hui. Sur la question de l'engagement, il y a une notion qui n'a pas du tout été évoquée, qui est très importante chez Landwehr. Ça a été repris par des commentateurs à France Culture, que je ne nommerai pas, et c'est l'idée de cause imparfaite. Il faut avoir des causes, mais les causes seront toujours imparfaites. Donc la question de l'imperfection est centrale. Je ne peux pas aller vers l'imperfection si je ne prends pas en compte l'imperfection initiale. Là, on trouve la question, après, du mal originaire, des questions comme ça, qu'on va retrouver chez des auteurs chers à Frédéric, comme Jean Habert, Darcy. C'est extrêmement important, parce que la question du mal et de la violence sont là, mais posées autrement que dans le cadre de la pensée personnaliste. Vous voyez bien, je ne vais pas y insister, mais que sur la... puisqu'il est déjà 8 heures, que sur la question de la communauté historique, on pourrait montrer facilement chez Landwehr que ce n'est pas du tout la même approche de la communauté. La communauté est très fragile. On n'est pas avec la vision pédagogique et militante du mouvement personnaliste. D'ailleurs, il s'intéresse beaucoup. Ça, c'est le rapport qui a été évoqué tout à l'heure à l'Allemagne sur l'idéologie, la propagande, la bêtise et la question du langage, question d'aujourd'hui. C'est-à-dire, attention, si le langage peut commencer à patiner, et c'est là où on va aller vers les nouveaux totalitarismes que vous avez évoqués tout à l'heure. La question de la bêtise, il la met en avant. Bon, je peux. Et sur la question de la personne... Là, il y a un décalage avec Mounier, c'est-à-dire que lui a une tradition très mystique chez lui. C'est peut-être là où on retrouve Bataille, et Saint-Augustin aussi, j'en sais rien, et Sainte-Thérèse d'Avila, qui est très importante pour lui. Il préconise une espèce de mysticisme chrétien qui est la réponse à la spiritualité. Mais là, je ne peux pas aller plus loin. Après, sur l'Espagne, si on avait eu le temps, je vous aurais lu un texte remarquable qui s'appelle « Intermezzo tauromachique ». C'est un texte dans... l'essai sur l'expérience de la mort, qui est un texte sur la tauromachie. Et lui, c'est très intéressant. Il montre, on a tout Landwehr là, il montre comment la tauromachie, c'est une invention incroyable espagnole, c'est pour ça qu'il est fasciné par l'Espagne, puisqu'en fait, le taureau est l'homme qui croit qu'il va pouvoir bien vivre et qui va en fait se faire tuer par le toréador. Et le toréador, quelque part, c'est le mal, c'est Satan, c'est etc. Donc il inverse complètement. Le toréador, c'est l'homme, mais qui effectivement, alors que l'homme est à la place du taureau. Lisez ce texte. D'ailleurs, je crois qu'il y a un philosophe ici connu, Frédéric Wolff, qui adore la tauromachie. Et rappelez-vous que toutes les thématiques de Léris et autres, et Sartre adorait, il allait avec... La tauromachie, c'est très important dans l'après-guerre. Hein. Mais ce texte, et je m'arrête là-dessus, juste quelques prolongements. Mais il faudrait travailler un peu plus sur la thématique collège de sociologie, parce qu'elle va revenir dans l'esprit après-guerre. Au seuil, vous avez des introductions au monde de la terreur, Bertrand d'Astorg, c'est remarquable. C'est un livre sur ça, des Saint-Just. Et vous avez tous les débats post-guerre sur la violence. Et deuxième piste, bien sûr, je l'ai évoqué, c'est la question de l'Espagne. Et bien entendu, vous avez le thème du tragique qui revient et qui va revenir. Beaucoup de vous ont lu ce livre. C'est le retour du tragique de Jean-Marie Domnac. Et la question du tragique, pour moi, c'est aussi tout ce qui va arriver avec l'Europe de l'Est et l'antitotalitarisme. C'est Jan Patočka. C'est les guerres du XXe siècle qui sont aussi les guerres du XXIe siècle. Voilà, merci.